Bienvenue sur Serial Entrepreneur. Je suis François Allais, fondateur du podcast, et depuis 2017, je pars à la rencontre d'entrepreneurs remarquables. Chaque entrepreneur possède une histoire unique, a dû prendre des décisions fortes pour réussir et a franchi un cap dans son aventure grâce à des rencontres. Dans ce podcast, j'aime mettre en avant toute la richesse et la diversité de l'entrepreneuriat en France à travers des conversations intimes, authentiques et sans bullshit. Chaque dimanche à 18h, retrouvez un nouvel épisode exclusif.
On voit souvent à la télé des gens qui ont pas grand chose, mais en fait le vivre c'est hyper difficile. Et pendant que je suis en train de manger, il prenait la moitié du buffet et il le jetait à la poubelle. Je me dis mais attends, dans quel monde on vit ? Là, il y a 6 mois, j'étais avec des mecs, ils étaient en train de littéralement manger des viscères, et là on est en train de jeter des énormes croissants qui ont l'air trop bons juste parce que en fait ils sont restés 4-5 heures à l'air libre. On va venir prédire le nombre de clients qui vont venir au restaurant, les plats qui vont être commandés et la quantité exacte d'ingrédients dont on a besoin pour préparer les repas. C'est possible, c'est pas parce qu'on vient d'un environnement qui est compliqué, où il n'y a aucun écosystème, qu'en fait tout est possible, qu'on peut réussir.
Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Pour cette rentrée, je suis très heureux de vous retrouver pour une série de 6 épisodes en collaboration avec le Soli Hotel. Le Soli Hotel, c'est un nouvel hôtel 4 étoiles qui a ouvert à Paris, 4 rue Salomon-de-Cos, et qui conjugue l'esprit d'une maison d'hôte et d'un hôtel parisien. Soli, c'était le surnom de Salomon-de-Cos, un grand voyageur, ingénieur et architecte, qui a insufflé à toute la maison un état d'esprit curieux, créatif et ouvert au monde. Dans cette série de 6 épisodes, vous allez découvrir des entrepreneurs incroyables avec des parcours très différents mais très inspirants. On va parler de sujets tels que le fait de gérer des célébrités, d'avoir pour mission de réduire le gaspillage alimentaire, le fait d'avoir été modèle pour Meta et Google, d'avoir ouvert une chocolaterie luxe dans Paris, d'avoir créé une marque de vinaigre de cidre, ou enfin d'avoir une grande carrière médiatique, notamment à la télé et à la radio. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage et une très bonne écoute. J'espère que ces épisodes vous plairont. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode en collaboration avec le Soli Hotel. Je suis très heureux de recevoir Hassan Ali Chaudhary, qui est le cofondateur de Full Soon. Salut Hassan, comment tu vas ?
Salut, bah, écoute, hyper content d'être là. C'est mon premier podcast. Du coup, je suis content de le faire avec toi.
Trop content. J'ai très hâte de discuter avec toi sur ton parcours, ton aventure, et ça va être très sympa. On s'est rencontrés dans le cadre de Forbes, finalement, puisque c'est tu ça. Fais partie des 30 Under 30 cette année. Donc, on s'est retrouvés dans la même liste.
Exactement.
Et on s'est rencontrés dans le cadre d'une soirée. Et du coup, j'avais très envie de t'inviter dans le podcast pour discuter de tout ça. Moi, ma première question que je pose sur chacun de mes podcasts, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi.
Alors, dans quel environnement j'ai grandi, c'est une vaste question. Moi, j'ai grandi dans le 95, vers Villiers-le-Bel. Donc, c'était un peu un environnement, banlieue parisienne. Très connu pour les émeutes, mais il y a pas que ça là-bas. Du coup, c'était cool. J'étais dans une famille de 6 frères et sœurs. Je suis le dernier. Mes parents, ils sont d'origine pakistanaise. Mes parents sont pas beaucoup allés à l'école. Ils ont tous les deux arrêté l'école en primaire. Donc, ils ont toujours eu cette volonté-là de nous pousser vers l'éducation. Surtout mon père, il a toujours eu cette frustration-là de pas avoir été à l'école, de pas être hyper à l'aise pour lire, écrire, etc. Donc, ils nous ont toujours poussé à faire dans les études. Après, c'était pas hyper évident. Surtout dans le quartier dans lequel on a grandi, c'était pas forcément les écoles étaient pas top, les écoles publiques en tout cas étaient pas top. Mais moi j'ai de la chance, comme j'étais le dernier, j'ai un peu bénéficié de toutes les erreurs qui avaient été faites un peu avant par mes grands frères et mes grandes sœurs. Du coup, moi j'ai eu la chance d'aller un peu dans le privé. D'aller dans le privé. Je suis le seul de mes frères et sœurs à avoir été dans le privé catholique. Et c'était assez marrant parce que je suis de confession musulmane, mais j'ai fait toute ma scolarité dans du privé catholique.
Ok.
Du coup, mais c'était hyper cool. Franchement, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur la France aussi et de m'ouvrir à plusieurs cultures. Du coup, c'était top. Après, c'était pas forcément grandi dans un milieu hyper hyper aisé. Du coup, on est passé quand j'étais tout petit d'un appart à Villers-le-Bel où on grandissait du coup avec mes frères et sœurs, mais il y avait aussi mes oncles, mes tantes, tous mes cousins. Après, on a bougé dans un pavillon, etc. Mais toujours pas grand chose, mais toujours ce qu'il fallait. Toujours ce qu'il fallait, et avec des parents et une famille hyper aimante. Du coup,
beaucoup d'amour. C'est énormément, le principal, c'est plus important.
Énormément d'amour, énormément d'amour.
Ok, super. Est-ce que tu te souviens de tes premières passions?
Mes premières passions. Alors, moi, je t'avoue que cette question, elle est un peu... elle met un peu toujours mal à l'aise, parce que j'ai pas vraiment de passion. Enfin, j'ai pas commencé le foot quand j'avais 3 ans et j'en ai fait pendant 20 ans. Après, il y a quelque chose qui m'a beaucoup attiré depuis que j'étais tout petit, c'est l'associatif. Moi, je me souviens, dès que j'étais tout petit, mon père nous emmenait souvent au Pakistan, et pour voir un peu nos racines, ce qu'on faisait là-bas. C'était des milieux hyper ruraux, hyper pauvres. Et du coup, j'ai ces images depuis tout petit, nous emmener dans des orphelinats pour prendre une partie de ce qu'il gagnait et aller le redistribuer là-bas. Et j'ai un peu gardé ce truc-là. Ici, du coup, j'ai commencé l'associatif relativement tôt, entre guillemets. J'avais 15-16 ans quand j'ai commencé à bosser dans une asso qui s'appelle Au cœur de la précarité. Et au début, on faisait juste de la distribution de repas aux personnes sur Paris. Et puis, petit à petit, on a grossi. On a commencé à faire de la scolarisation d'enfants roms, de gérer des orphelinats, des maternités au Niger. Du coup, ça m'a permis de voyager aussi pas mal et de me lancer là-dessus, quoi. Je passais quasiment tout mon temps libre avec cet asso. Okay. Mais pas forcément de hobby en particulier.
L'envie de t'investir dans des projets à impact, finalement.
Ouais, c'est ça, exactement.
Ouais, ok. Donc très tôt, dès le départ, tu t'es dit, ok, j'ai envie de m'investir là-dedans.
Exactement. Bah, moi, je me souviens, une chose qui m'avait vraiment marqué, c'était quand il y avait la guerre en Syrie. Il y avait un énorme camp de réfugiés qui s'était créé aux alentours de Porte de Saint-Ouen. Et je voyais des gosses qui avaient 2-3 ans. Et moi, j'ai 9 neveux et une nièce, donc j'ai une grosse famille qui avait le même âge. Je les voyais dans la rue. Ça m'avait pas mal marqué. Et du coup, c'est comme ça que petit à petit, en parlant avec eux, j'ai vu cet asso passer. J'ai commencé à discuter avec eux. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler avec eux, quoi.
Ok, trop cool. Comment est-ce que tu vis tes études? Parce que justement, t'as des parents qui te poussent à l'excellence.
Ouais.
Alors, j'ai eu des infos comme quoi t'avais été major de promo à plusieurs reprises. Comment est-ce que tu vis tes études, justement?
Alors, mes études, c'est hyper particulier. Parce que du coup, comme je te disais, j'étais dans un lycée, enfin, un collège, du coup, à Villers-le-Bel. Et en fait, en gros, nous, dans la famille, comme je te disais, on nous a toujours poussé à l'excellence. Du coup, j'ai une sœur qui est devenue notaire, l'autre qui est devenue ingénieur. Du coup, il y avait la pression. Je pouvais pas me rater. En plus, j'étais le seul pour lequel mes parents avaient vraiment investi financièrement pour envoyer dans une école privée.
Et puis, le dernier aussi de la fratrie.
Ouais, le dernier de la fratrie aussi. Du coup, en fait, j'étais hyper investi dans mes études et j'étais hyper bon, en primaire et au collège. Et comme j'avais un hyper bon dossier, mes profs avaient encouragé mes parents pour m'envoyer dans un lycée sur Paris. Du coup, j'arrive dans un lycée sur Paris et en fait, je me rends compte que je suis hyper nul comparé au niveau parisien. En fait, j'étais hyper bon dans mon collège, j'étais le premier, je suis arrivé à Paris et en fait, j'étais l'avant-dernier de la classe, quoi. Parce que en fait, c'était hyper dur, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout les bonnes méthodes de travail. J'étais en retard sur le programme qui était fait au lycée. Le niveau de la classe était hyper élevé. Je suis passé d'un environnement hyper cocooning, les profs hyper sympas qui nous poussaient, etc. Un environnement, c'était un lycée qui faisait aussi, enfin qui préparait pour la prépa, quoi. Du coup, ils avaient déjà les méthodes de travail de la prépa, ils poussaient, ils étaient hyper durs sur l'homme. Donc, je l'ai pas hyper bien vécu le lycée. Et c'est aussi à ce moment-là où je me suis rendu compte de des différences que pouvait y avoir, en termes de privilèges qu'on peut avoir dans une famille. Avant, je m'en rendais pas du tout compte parce que, en fait, j'avais grandi avec des gens qui avaient à peu près le même niveau de vie que moi et les mêmes ressources que moi. Et en fait, quand je suis arrivé sur Paris, j'ai découvert que, il y avait des gens qui avaient grandi avec énormément de ressources, qui faisaient du sport, du tennis, du foot depuis tout petit, de la natation, de la voile. Pour moi, c'était impensable. C'était un sport que je connaissais même pas, qui avait des profs particuliers, enfin tout ce genre de choses. Ça a été vraiment frontal.
Il y a une vraie fracture.
Ouais, il y a une vraie fracture. Et je me suis rendu compte, il y a peut-être une frustration aussi qui a commencé à naître à ce moment-là, parce que je faisais 1h30 de transport, les autres ils arrivaient, ils rentraient chez eux en 5 minutes, ils étaient chez eux. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, on essaie pas tous égaux. En fait, c'est bête à dire, mais je m'en suis vraiment rendu compte quand je suis arrivé au lycée.
C'est la réalité en vrai. Tu te rends compte, et même tu te rends compte aussi plus tard dans l'entrepreneuriat, que la majorité des entrepreneurs viennent des mêmes écosystèmes.
Ah, c'est ça.
Et on part pas du tout du même point de départ, on va dire.
Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, je m'en suis rendu compte au lycée. Du coup, le lycée hyper difficile. Je m'en souviens, j'avais une prof qui m'avait dit: ta copie est une insulte à mon enseignement. Et moi, j'étais là, ok, en fait, mais qu'est-ce qui se passe? Je retournais de là où je viens, j'étais bien, et là, en fait, il se passe ça. Et au final, après, ma vie, elle est un peu faite de rencontres. Le transport que j'aimais pas du tout, enfin, tout ce temps de transport-là, au final, pendant que je suis en train de prendre le train, je rencontre un petit vieux avec lequel on commence à parler, et qui me dit: ouais, enfin, tu fais quoi? Je lui dis: moi, je suis en train de faire mon orientation. Et il me dit: moi, je suis actuaire. Il m'a dit, je me souviens, moi, je me fais des couilles en or. J'ai dit: bah, écoute, ça a l'air stylé, l'actuariat. On va partir. On va se renseigner là-dessus. Et au final, j'avais vu, pour faire de l'actuariat, il fallait faire maths appliquées. Du coup, je me suis lancé en faisant des maths appliquées à la Sorbonne. J'ai commencé à faire ça, et pareil, hyper hyper difficile et hyper sélectif le cursus dans lequel je me lance. Je me souviens, le premier jour, on était à peu près 400-500 dans la promo, et sur les 500, on est 12 à avoir complété le cursus la licence en 3 ans. Du coup, pareil, hyper hyper difficile et hyper intensif, mais incroyable. Pour le coup, la fac, j'ai adoré, on était livrés à nous-mêmes, mais j'ai fait des rencontres incroyables. Et là, j'ai un peu surmonté cette frustration que j'avais, et je m'en suis un peu utilisé comme étant une force. Là, j'ai commencé à bien aimer le transport que j'avais, puisque le temps de transport, j'en profitais pour faire autre chose, pour réviser, pour lire, pour écouter des podcasts. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à écouter un peu des podcasts. Et du coup, la Sorbonne, hyper bonne expérience. Je continue un peu dans cette filière-là. Je fais un master en finance. Mais je me rends compte que la finance, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Et à ce moment-là, il y avait une grosse simulation autour de la big data, la data science, etc. Du coup, je cherche un master en alternance. Et là, encore une fois, l'intérêt d'avoir une grande famille, c'était ma sœur qui me disait: ouais, fais de l'alternance, c'est trop bien. Du coup, j'ai fait de l'alternance, et j'ai commencé comme ça, en étant data scientist en alternance chez Saint-Gobain, j'avais commencé. Et puis voilà.
Après tes études, tu restes du coup data scientist, notamment chez Saint-Gobain et ensuite chez Accor.
C'est ça, exactement.
Qu'est-ce que tu retiens de ces expériences de salariat?
Alors, moi, dès le premier jour où je suis arrivé chez Saint-Gobain, je me suis assis derrière mon ordinateur. Je savais que j'allais pas finir salarié. En vrai, c'était des expériences qui étaient incroyables. Principalement pour les rencontres que j'y ai faites. Je me souviens, moi j'étais alternant, j'avais rencontré un stagiaire, il s'appelait Merlin Lafitte. Grosse bise à toi Merlin si tu vois le podcast, mais ça, il a un peu fait figure de mentor. Enfin, lui il avait vraiment le profil typique, lui le grand central, une bonne famille. Du coup, il m'a un peu appris toutes les méthodes de travail, les structures qui me manquaient un petit peu. Je les ai acquises vraiment hyper tard en dernière année de master. Mais du coup, ça m'a permis vraiment de me structurer et en le côtoyant aussi être pris d'ambition, de me dire qu'en fait, ben, si ces personnes-là arrivent à faire ça, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Du coup, ça m'a vraiment initié, pareil, à la data science, tout ça, il m'a appris énormément de choses et je me suis vraiment hyper reconnaissant. Et quand je finis Saint-Gobain, j'ai envie de faire un break. Du coup, je pars voyager pendant un an et demi à peu près. Je pars voyager et ça a été hyper enrichissant aussi comme moment parce que j'avais pas eu l'occasion de tellement voyager avant. Mais là, j'ai pu faire plein de pays différents, plein d'expériences différentes.
Je veux dire, raconte-moi ça.
Parce que
des voyages comme ça, on sait que c'est un apprentissage de ouf. Pense que ça vaut beaucoup d'expérience. T'as fait quel pays, justement, pendant ce voyage d'un an et demi?
Alors, j'ai commencé... le premier voyage que j'ai fait, du coup, pendant cette période-là, j'ai rejoint ma sœur, Taïba, qui à l'époque était à New York. Elle était en train de monter la filiale d'une boîte dans le ferroviaire à New York. Du coup, j'étais parti lui rendre visite. Et elle, à ce moment-là, un de ses rêves, entre guillemets, c'était d'aller voir le Trou Bleu à Belize. Du coup, on est parti pour son anniversaire voir le Trou Bleu à Belize. Pareil, Belize, incroyable, des paysages magnifiques, etc. À ce moment-là, je me prends un petit peu de goût pour la découverte parce que Belize, c'était vraiment en mode backpack, etc. Du coup, de Belize, on part au Pérou, toujours avec Teiba. Pareil, incroyable Pérou. Super expérience. Et après, là, je me dis, OK, en fait, je vais juste partir par opportunité. J'avais une amie qui faisait un VU à Hong Kong. Du coup, je suis parti là-bas à Hong Kong. Après, je suis parti au Japon. Je suis parti au Vietnam aussi. Je suis au Vietnam. Et à ce moment-là, juste après, pendant que je suis au Vietnam, j'ai l'asso avec laquelle je travaille. Ils me disent qu'ils ont un orphelinat qui leur a écrit au Niger et qui avait besoin énormément de ressources parce qu'ils avaient 70 enfants, quelque chose comme ça, à charge. Ils avaient plus aucune ressource. Ils avaient besoin de quelqu'un pour aller voir là-bas. Et à ce moment-là, le Niger, c'était un peu chaud parce qu'il y avait le nord du Niger qui était attaqué par Boko Haram, etc. Mmh. Et dans l'assaut, j'étais le seul qui était pas marié, qui avait pas d'enfants, etc. Du coup, on m'a dit, allez, tu pars au front. Du coup, je suis parti au Niger et expérience incroyable là-bas. Vraiment, le Niger, je pense que c'est l'un des deux voyages qui m'a le plus marqué. Parce que j'ai vraiment découvert que, même si on le voit souvent à la télé, des gens qui ont pas grand chose, mais en fait, le vivre, c'est hyper difficile. Et on se rend compte à quel point on est hyper privilégié et à quel point les mentalités sont différentes. Quand j'étais là-bas, du coup, j'étais parti avec à l'époque, en fait, pour te contextualiser un petit peu, c'était dans l'islam, il y a deux grandes fêtes, la Eid, et pendant une des Eid, on sacrifie un animal et on redistribue la viande aux personnes qui en ont besoin. Du coup, on avait récupéré les donations en France et on était parti faire le sacrifice au Niger, du coup, en population qui en avait besoin là-bas. Du coup, j'étais parti au Niger, on avait acheté 50 bœufs. Du coup, je suis parti là-bas, on a acheté les bœufs et puis après, je me promenais avec les bœufs pour aller dans l'orphelinat, dans les villages, etc., pour les sacrifier. Et en fait, quand je partais là-bas, je voyais dans les conditions dans lesquelles ils vivaient, qu'ils avaient pas d'eau courante. Et en fait, ça, déjà, c'est vraiment choquant.
Ce qui pour nous paraît la norme, même si on sait effectivement que c'est difficile.
Mais enfin, ça, c'est incroyable. Moi, je m'en souviens, ça m'a choqué quand je suis rentré. J'ai ouvert le robinet et j'ai vu de l'eau qui coulait. Je me disais, mais en fait, on vit dans un monde de fou parce que là, l'eau, elle coule à un débit de fou. Et là-bas, ils ont même pas d'eau. Et du coup, je commençais limite à avoir une forme de culpabilité en me disant, bon, est-ce que je mérite tout ça? Il faut que je fasse encore plus. Mais ça a été une super expérience et je me suis rendu compte à quel point ils étaient généreux. Une petite anecdote, là, du coup, j'étais parti pour sacrifier un bœuf. Et je voulais repartir vers un autre village. Et ils me disent non, tu restes là et tu manges avec nous. T'es notre invité et tu manges avec nous. Et du coup, j'avais pas mangé de la journée. Je me dis ok, moi je vais rester avec eux. Je vais passer la soirée avec eux. Et là, ils m'apportent un plateau. Ils ouvrent le plateau et c'est des viscères séchés. Et du coup, je me dis ok. on va manger ça quoi, c'est on va découvrir. Et là je mange un morceau de viscère, c'est un goût hyper particulier quoi. Et du coup je commence à tousser un petit peu et là il m'apporte de l'eau et là je regarde l'eau et l'eau elle est marron quoi. Je me dis si je bois ça c'est fini pour moi le reste du voyage. Et du coup je leur dis merci, je fais semblant de boire un petit peu l'eau. Et je pense qu'ils ont remarqué et ils ont envoyé un petit. Le petit est revenu avec une bouteille de coca. Et je me dis attends, je me sentais trop mal. Je me dis ils ont rien du tout et le peu qu'ils ont, ils vont l'utiliser pour m'offrir une bouteille de coca. Je me sentais hyper mal, mais en tout cas ça m'a fait vraiment prendre conscience de tout ça. Et après de fil en aiguille, à côté de l'orphelinat où on intervenait, il y avait une maternité. Du coup, je suis parti dans la maternité. Et là, pareil, moi, je revoyais mes sœurs en train d'accoucher qui étaient dans le mal absolu. Et là, je voyais des femmes qui étaient en train d'accoucher à même le sol. Je suis rentré dans la maternité et c'est un peu comme dans une boucherie un peu dégueu. T'as le sol qui est poisseux, tu sais. Mais en fait, là, c'était pareil. T'avais du sang séché par terre. Image hyper, hyper marquante. Et du coup, j'étais parti avec quelqu'un d'autre de l'asso. On se dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour améliorer ça. Du coup, on a commencé à faire un partenariat avec la maternité. Et juste à côté de la maternité, il y avait une prison. Et je me dis, mais attends, si ça, c'est les gens dans la maternité.
C'est quoi la prison?
C'est quoi l'état de la prison? Et du coup, on discute avec les gardes de la prison et ils nous disent, écoutez, allez-y, mais on est garant de rien. Et en fait, ils ouvrent les scènes.
T'es dans Netflix, là.
Une scène quand j'y reprends, je me dis, mais j'étais vraiment inconscient. Ils ouvrent les portes de la prison. Et du coup, moi, je rentre avec mes bœufs. Du coup, je rentre dans la prison avec 5 bœufs. Et là, pour te donner une image, j'espère que t'as regardé Prison Break ou pas?
Un peu, ouais.
Tu vois, quand ils sont dans la prison au Panama, à Sona, où il y a avec les 4 murs, et les prisonniers, ils sont livrés à eux-mêmes à l'intérieur. Mais en fait, c'était exactement la même chose. Les prisonniers, ils étaient livrés à eux-mêmes à l'intérieur. Et là, je vois un mec arriver torse nu, complètement balafré, qui vient me voir et qui me dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» Et du coup, je lui dis « Écoute, on vient apporter des bœufs. » Et là, il fait un signe de la tête et tu vois genre 7-8 mecs arriver avec des grosses machettes. Et je lui dis « Ok, là, je vais y passer en fait. » Et en fait, ils étaient venus pour du coup sacrifier les bœufs. Mais scène incroyable. Le mec prend les cornes de la bœuf, il les tourne et il met une balayette à la bœuf. Là, je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il retourne la bœuf et là, il me tend la machette et il me dit, c'est toi qui vas égorger. C'est en gros, un peu, c'est honorifique de celui qui égorge la bœuf. Et moi, j'étais là, ok, c'est soit la bœuf, soit moi, là, en fait. Et du coup, j'ai commencé à égorger les bœufs avec eux, les dépecer, etc. On a passé l'après-midi là-bas. Et en fait, expérience incroyable aussi. Je me suis rendu compte que, ils avaient tous des parcours de vie, mais complètement horribles. Il y avait des enfants soldats, il y avait quasiment la moitié, ils étaient issus d'un trafic d'humains, etc. Et là, je me dis, mais en fait, à quel point on est tous avec des inégalités, mais incroyables. Il aurait suffi de n'importe quoi pour que tu te retrouves à leur place, quoi. Et du coup, grosse remise en question là-bas. Du coup, je pars du Niger et je me mets de plus en plus aussi dans la religion à ce moment-là. Et du coup, je pars à la Mecque avec ma mère pour faire le pèlerinage à la Mecque. Et puis après, je continue mes petits voyages. Mais pour moi, ça a été les deux voyages qui m'ont le plus marqué. Ça a été celui au Niger et celui à la Mecque.
Ok, donc ouais, un an et demi qui t'ont appris beaucoup finalement.
Énormément. Énormément.
Ensuite, tu reviens en France.
Ouais.
Et du coup, tu travailles chez Accor.
Exactement.
De 2020 à 2022. Comment se passe cette expérience chez Accor et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, tiens, je vais me lancer dans l'aventure.
En fait, moi, chez Accor, du coup, quand je reviens de ce voyage-là, je me pose plein de questions. Déjà, je me dis, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux reprendre une vie dans le salariat, métro, boulot, dodo? Est-ce que je veux lancer ma boîte, etc.? Et moi, depuis qu'on est tout petit, mon père, il nous a toujours poussé à entreprendre. Lui, c'est un entrepreneur dans l'âme. Il a plein d'expériences d'entrepreneuriat. Il nous disait toujours, vous faites vos études. Ça vous apprend énormément de choses. Ça vous apprend à réfléchir, mais ne passez pas votre vie dans le salariat. Parce que ce qui a le plus de valeur dans votre vie, c'est votre temps. Donc, ne vendez pas votre temps. Moi, il m'a toujours dit ça, ne vends pas ton temps. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, je me sens pas encore assez mûr pour lancer quelque chose. Donc, je commence à candidater un peu partout. Et chez Accor, ça fit hyper bien avec l'équipe. Tout se passe hyper bien. Et je suis recruté, en fait, pour faire la prédiction du taux d'occupation des hôtels. Du coup, j'étais en charge de prédire combien de clients allaient venir et pouvoir fixer le bon prix à des chambres d'hôtel. Et franchement, super job. Accor, c'est une boîte incroyable. Ouais. Franchement, je leur suis hyper reconnaissant. L'équipe est top. Je m'éclate. Et en fait, j'ai la chance, du coup, de énormément voyager, de partir dans pas mal d'hôtels. Et à chaque fois que je pars, j'en profite pour aller au resto. Parce que je suis un grand fan de bouffe aussi. Et j'assiste à la même scène. À la fin du petit-déj, je suis en train de prendre petit-déj. Je me lève assez tard en général. Et je vois que, du coup, j'étais parmi les derniers à partir au buffet. Et pendant que je suis en train de manger, il prenait la moitié du buffet et il le jetait à la poubelle. Et du coup, je me revoyais au Niger en train de découper des bœufs. Et je me dis, mais attends, dans quel monde on vit? Là, il y a 6 mois, j'étais avec des mecs, ils étaient en train de littéralement manger des viscères. Et là, on est en train de jeter des énormes croissants qui ont l'air trop bons juste parce que, en fait, ils sont restés 4-5 heures à l'air libre, quoi. Et du coup, j'en commence à en parler avec mes deux sœurs, Misba et Tayeba. On en discute. Et puis après, on se dit, mais attends, si t'arrives à aller dans les hôtels et que t'arrives à prédire le nombre de clients qui vont venir à l'hôtel, pourquoi est-ce que tu peux pas prédire le nombre de clients qui vont venir à l'hôtel, ce qu'ils vont manger et la bonne quantité d'ingrédients? Comme ça, on n'a plus besoin de jeter. Du coup, je me dis, ah, j'avoue, pas mal cette idée. Et je commence à en parler un peu à mon boss à l'époque, chez Accor. Et c'est là aussi qu'on se rend compte le poids d'une énorme entreprise. C'est hyper difficile de faire du dépassement de fonction. Je proposais cette idée-là et en fait, c'était pas fermé, mais il ne savait pas comment recevoir cette idée. Il se disait, pour faire ça, il faut du budget, il faut du truc,
comment
machin.
Comment ça s'intègre
dans la roadmap, dans la vision, c'est quel... Enfin, des process hyper lourds. Et au final, je commence à chercher par moi-même, j'en parle un peu avec les équipes qui s'occupent de la restauration chez Accor. Et ils accueillent pas le projet hyper bien. J'ai un peu l'impression que ça va leur rajouter du taf.
C'est souvent le cas, en vrai.
Alors, c'est ça.
Ok, tu me racontes.
Mais grave, c'est exactement ça. Et du coup, ils me disent un peu, laisse tomber, reste dans ton coin. À ce moment-là, confinement qui arrive. Boum. Du coup, l'hôtellerie, ça a été dévasté par le corona. J'étais au chômage partiel. Je bossais que le matin. Et je me dis, mais attends, je peux pas rester sans rien faire. Je voyais toute la quantité de nourriture qui était jetée. On peut pas rester sans rien faire. Et à ce moment-là, il y avait une amie de ma sœur qui avait une petite pizzeria kebab Je me dis, bah, écoute, d'accord, c'est compliqué d'aller chercher un resto, là. Je vais aller voir ceux qui me connaissent bien. Mon kebab de quartier. Lui, ça fait 20 ans que je vais manger là-bas. Je vais voir. Je lui dis un peu, est-ce que tu peux me prêter tes données?
On peut pas gâcher du kebab. Ah,
voilà, c'est ça. On veut pas. Sacrilège. Et ils comprennent pas trop ce qu'on veut faire, mais par amitié, ils me disent, ok, vas-y, prends, fais ce que t'as. Je récupère les données, je construis un petit modèle. Je me dis, il y a quelque chose à faire. C'est pas incroyable, mais je fais un petit 60% d'accuracy. Je me dis, ah, pas mal, il y a quelque chose à faire. Et à ce moment-là, il y avait Misba, du coup, ma sœur qui était notaire, qui écoutait à la radio, il y avait Maurice Lévy. C'est à l'époque, c'était PDG de Publicis, qui lançait son incubateur et qui faisait un appel à projet. Et du coup, on dit, bah, écoute, allez, on participe, on pousse le projet, on voit ce que ça donne. On pousse le projet et je crois qu'il y avait 300 projets qui avaient candidaté. On était la première promo. Full Soon, c'était le projet qui arrivait premier dans la grille de notation. Et le deuxième projet, c'était celui de mon frère qui avait lancé avec une autre de mes sœurs.
Trop drôle.
Ça s'appelait Flex Space. Et du coup, on était là. Incroyable. On va tous les deux lancer le projet en même temps. Et du coup, à ce moment-là, Maurice Evie nous propose de rejoindre son incubateur. Full Soon et Flex Space. Du coup, c'était incroyable parce qu'on était incubé. Il y avait mon frère qui lançait sa boîte juste derrière nous. C'était
les parents étaient fiers.
Les parents étaient fiers.
Mais pas trop non plus.
Ouais, mais en fait, eux, ils réalisaient pas trop. Okay. Ils réalisaient pas trop parce qu'après, ils avaient des préoccupations et qui sont toujours hyper terre à terre. C'est est-ce que vous faites de l'argent? Combien vous gagnez? Est-ce que vous pourrez vivre tranquillement, etc. D'incubation, de machin. C'était hyper abstrait pour eux. Mais nous, on adore. On commence à rentrer un peu dans cet écosystème-là de start-up, de trucs, de machin. C'est trop, trop cool. Et à ce moment-là, du coup, je repars voir Accor. Je fais une rencontre qui a vraiment changé ma vie chez Accor. C'était Damien Perrault, celui qui était en charge de l'innovation à ce moment-là, et qui me fait... Mais c'est une connexion incroyable qui s'établit entre eux. Il me fait... C'est pour la première fois qu'il y a quelqu'un de très haut placé qui me fait une confiance aveugle. Qui me dit, ok, moi, je crois en toi. Je crois dans ce projet. Je te follow.
Et ça, c'est précieux.
Et ça, c'est hyper, hyper précieux. En fait, c'est pour la première fois qu'il y avait des personnes hors cercle familial qui ont confiance en moi. Et je me dis, bah, attends, c'est fou parce que, tu sais, dans les boîtes un peu corporate, t'as les gens qui sont hyper haut placés et en fait, tu leur parles jamais. Tu les vois déambuler, tout le monde se tait, tout le monde est là, oh, qu'est-ce qui se passe, etc. Et là, c'est pour la première fois qu'il y a quelqu'un qui se pose, qui me dit et qui me donne des hyper bons conseils, qui prend un peu cette position de mentor avec moi, et je l'en suis hyper hyper reconnaissant, et qui me dit ok, bah écoute, moi je crois en toi, je crois en tes sœurs, je crois dans le projet, Accor vous suit. Et du coup, vraiment, je commence à faire un peu un programme intrapreneurial un peu hybride où j'étais toujours salarié d'Accor, mais je faisais mon incubation à l'escalator, l'incubateur de Monsieur Lévy. Et en gros, Accor me donne un peu de fonds pour commencer à lancer le projet. Ils me disent, bah, écoute, on te laisse 6 mois pour tester un peu ce que t'as à tester. Et si ça marche, tu démissionnes et tu lances ta boîte. Et si ça marche pas, tu retrouves ta place de salarié.
Trop bien.
Super deal pour moi. J'ai dit OK. Et là, c'est vraiment à ce moment-là, c'était septembre 2021. Je pense que ça se passe. C'est là que la vraie chose commence. On prend deux consultants. Je commence à me mettre plein dedans. Et ça a été un peu compliqué à ce moment-là aussi parce que du coup il y avait Taïba qui était toujours salarié à l'époque chez Vinci.
Profil ingénieur.
Ouais, Taïba ingénieur en énergie renouvelable de base.
Ouais.
Mais elle a toujours eu cet aspect un peu commercial où elle était partie monter des filiales de boîtes comme ça aux États-Unis un peu partout. Et du coup elle avait cette fibre commerciale là. Et Misba, elle, elle est notaire. Du coup, elle avait sa propre étude notariale. Elle avait sa propre étude notariale. Elle, du coup, pareil, enfin, ça, c'est le projet d'une vie, avoir une étude notariale.
Clairement.
En plus, tu peux pas lancer des boîtes comme ça à côté pendant que t'es notaire. Du coup, c'était un peu une période compliquée où on savait pas trop quoi faire. On était dans un équilibre un peu hyper fragile et on passait d'une relation de frère et sœur à une relation d'entrepreneur d'associé. Du coup, hyper compliqué aussi.
En même temps, tu visualises l'opportunité.
C'est
et
ça.
De l'autre, tu dis OK, mais les situations elles sont déjà très bien pour chacun.
Exactement.
Est-ce qu'on prend pas le risque justement de casser ce qu'on a déjà construit
Exactement.
Pour aller vers quelque chose qui peut nous emmener encore plus loin
Ouais, ben c'est vraiment ça. C'est qui tout double. Est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on va pas réussir? Et encore avec Taïba, je me disais, ben Taïba, elle est ingénieure, elle a diplômé une salle Lyon, elle a fait Assas, elle va retrouver du taf si jamais ça repart pas. Misba, je me disais, mais si elle vend son étude, une étude notariale, enfin pour ceux qui connaissent pas le notariat, ouais. Le notariat, c'est vraiment une mafia. Pour avoir une étude notariale,
c'est un héritage.
Voilà, c'est ça en général. Mais encore une fois, tu vois, ouais. le notariat, c'est dans 95% des cas, en fait, t'hérites de l'étude de tes parents. Avoir une étude soi-même, c'est le parcours du combattant. Enfin, elle a mis plus de 10 ans à pouvoir ouvrir sa propre étude. Et du coup, je me dis, si elle abandonne ce projet-là pour moi, pour lancer ça ensemble.
Alors tout donner.
On n'a pas le choix. Il faut qu'on réussisse. Du coup, je me pose énormément de questions à ce moment-là. Et surtout, moi, j'avais l'exemple de mon père qui avait lancé plein de business avec ses parents, avec ses frères. Et ça s'était hyper mal terminé. Embrouille en famille. Ça va presque jusqu'au procès.
De toute façon, c'est qui tout double. Soit voilà. Ça se passe très bien, soit ça se passe très mal.
Exactement. Et du coup, en fait, on n'avait aucune raison de se dire on y va, ça va être... Ça va bien se passer, ça va être incroyable. Mais, je ne sais pas pourquoi, peut-être une forme d'inconscience. Hein, en faisant une rétrospective, je me dis peut-être que c'était de l'inconscience. Mais on avait tellement cette volonté-là de travailler ensemble, parce qu'on est tellement heureux ensemble, en fait, quand on est ensemble. Mes six frères et sœurs, mes parents, quand on est ensemble, on est tellement heureux quand on allait bosser et on voyait des collègues avec qui on s'entend pas forcément hyper bien, ou des tâches qui sont un peu redondantes, ou des choses comme ça. Enfin, tes collègues, tu passes plus de la moitié de ton temps avec eux. Enfin, tu passes plus de temps avec tes collègues qu'avec ta famille, quoi. Et du coup, je me dis, mais en fait, même si je gagne moins, même si demain ça doit cracher, le temps, encore une fois, je repense à ce que mon père me disait, le temps que j'aurais passé, tu l'auras passé avec des gens que t'aimes, des gens que t'apprécies. Et du coup, vas-y. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Du coup, j'ai fait la période entrepreneuriale pendant 6 mois. Voilà, à la fin des 6 mois, on n'avait pas du tout fini. Je ne savais pas si ça allait vraiment marcher ou pas, mais je ne me voyais pas du tout repartir vers une vie de salarié. Et du coup, au bout de 6 mois, je pose ma dème et on se lance du coup à ce moment-là. À Misba, elle vend son étude notariale.
Time.
Le grand saut.
Elle
quitte et on se lance du coup tous les trois.
C'est dingue. Franchement, c'est dingue comme début d'aventure. Parce que souvent, les entrepreneurs que je peux recevoir, ça va être oui, de toute façon, j'avais rien à perdre. Tu vois, je me suis lancé, j'avais rien à perdre. Vous, potentiellement, il y avait déjà des choses à perdre. Il y avait, tu vois, le côté famille, où vous êtes ultra soudés, etc. Et potentiellement, dans une aventure entrepreneuriale, il peut y avoir des conflits, et potentiellement, il y en a, mais c'est pas grave. L'amour est plus fort que le reste, finalement. Mais il y a surtout les situations professionnelles, notamment Misba, qui, effectivement, avait son activité de notaire. Et du coup, vous aviez potentiellement tout à perdre, entre guillemets, tu vois.
Ouais, c'est vraiment ça. On avait tout à perdre. Et au-delà de ça, moi, souvent, et dans pas mal de podcasts de serial entrepreneurs que j'écoutais, quand tu regardes un peu les profils des personnes qui entreprennent et qui réussissent, souvent, ils ont des modèles de personnes qui ont réussi autour d'eux. Enfin, en tout cas, ils sont dans un écosystème ou disent qu'en fait, c'est possible de réussir. Nous, quand on s'est lancé, on n'avait aucun exemple de personne autour de nous qui s'était lancé en créant sa startup, qui avait ne serait-ce que levé des fonds, qui avait lancé un produit qui n'était pas rentable tout de suite. Nous, tous les business, les exemples de business, c'était dans le BTP, c'était dans la restauration. En fait, tu as du cash qui rentre relativement rapidement. Enfin, tu fais ton projet, tu le cash rentre. Alors que là, tu dois faire de la R&D, tu crées un truc, tu sais même pas si ça va marcher. Et après, tu dois le vendre. Tu vas le vendre 100, 150 balles par mois. Du coup, il faut que tu aies 10 000 utilisateurs pour devenir rentable. On n'avait aucun exemple de personne qui avait, c'était lancé là-dedans, qui avait réussi. Donc, c'était encore plus incroyable pour nous de se dire « Ok, on y va ».
Le fait d'avoir des exemples, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est une des missions aussi du podcast. Moi, quand j'ai créé le podcast, j'avais pas véritablement d'exemple. En tout cas, j'avais pas d'exemple dans mon entourage, pas d'entrepreneur dans mon entourage. Par contre, je commençais à écouter des podcasts et du coup, certains podcasteurs, je m'identifiais en ce qu'ils faisaient et je me suis dit du jour au lendemain, pourquoi pas faire le mien, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir des exemples. Pour se lancer dans une aventure. C'est vrai que dans ce cas-là, alors t'avais ton mentor potentiellement qui t'a qui t'a poussé, etc. d'une autre manière, mais un exemple de réussite, effectivement, c'est plus difficile.
Toi, c'était qui ton exemple là, quand tu t'es
C'était un podcasteur qui ne fait plus de podcast aujourd'hui, qui s'appelait Antonin Archer.
Ouais.
Qui avait un podcast qui s'appelait Nouvelle École, qui a existé entre 2016-2017, qui était assez incroyable. Et en fait, la période où il a été, où il a créé son podcast, il a été top 1 France, toutes catégories confondues, from scratch. Et il a eu des invités incroyables dans son podcast. C'était en fait son podcast, c'était il invitait des gens qui sortaient des sentiers battus. Aussi bien des artistes que des sportifs, que des créateurs, que des entrepreneurs. Et en fait, moi, dans les épisodes que j'écoutais, je me retrouvais beaucoup dans les épisodes avec des entrepreneurs. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, OK, let's go. Je vais créer mon podcast dédié à l'entrepreneuriat, tu vois.
T'as jamais voulu l'inviter à...
Alors aujourd'hui, il fait quelque chose de complètement différent. Il s'est lancé dans la musique juste après.
OK.
Et donc, il est dans un univers et dans un mood complètement différent. Et je suis moins inspiré par ce qu'il fait aujourd'hui. Et je me retrouve moins dans ce qu'il fait aujourd'hui, tu vois. Mais en tout cas, je suis très... j'ai beaucoup de gratitude pour ce qu'il a fait, comment il a contribué dans le monde des podcasts en France. Et c'est ce qui aussi m'a motivé à me lancer, tu vois.
En plus, toi, tu t'es lancé, t'étais hyper jeune. Avec quel âge qu'on a fait
J'avais 20 ans.
20 ans.
C'est ça. Donc, ouais.
Hyper jeune.
Le podcast a switché. C'est terrible. Non, mais du coup, effectivement, pour revenir sur les exemples, je comprends totalement ton point de vue et du coup, ultra cool ce move à trois frères et sœurs qui se lancent comme ça dans l'aventure et qui se disent, OK, en fait, l'opportunité, elle est trop belle pour pouvoir la rater. Et donc, finalement, ça nous amène à février 2022 où la société est officiellement créée. Donc, c'est très récent au final. il y a un an et quelques mois. Mais il s'est passé, j'imagine, plein de choses sur cette période. Et d'ailleurs, pour revenir sur le produit, il est simple à présenter. Techniquement, je pense que ça l'est moins. C'est un outil qui a pour mission de réduire justement le gaspillage alimentaire et qui permet de faire des prédictions sur des produits alimentaires, etc., dans des restaurants, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Plus global, j'imagine, plus...
C'est ça. En gros, en fait, Fullsoon, c'est un outil de gestion prédictive pour les restaurants. En fait, on va venir prédire le nombre de clients qui vont venir au restaurant, les plats qui vont être commandés et la quantité exacte d'ingrédients dont on a besoin pour préparer les repas. Et en fait, après, l'objectif, c'est de faciliter la tâche le plus possible pour le restaurateur. Où en fait, on va lui générer automatiquement des bons de commande en lui disant, demain, la semaine prochaine, tu vas avoir 100 clients, tu vas avoir 20 personnes qui ont commandé des Big Mac, et pour préparer ces Big Mac-là, il faut que tu aies 20 steaks, 2 kilos de tomates. On va lui générer des bons de commande qu'on va envoyer directement à son fournisseur. Et en gros, l'intérêt d'avoir un outil comme ça, c'est que déjà, on se base sur l'historique, les habitudes de consommation dans le restaurant, mais on se base aussi sur tous les événements externes qui ont impacté la vie du resto. Donc, typiquement, ça va être la météo, les vacances scolaires, des événements sportifs, Coupe du Monde, JO, tout ça. On va venir récupérer ces événements-là et on va les prendre en compte dans nos prévisions. Parce qu'on s'était rendu compte qu'en fait, À part McDo qui avait des process hyper millimétrés, standardisés, toute la chaîne était maîtrisée de bout en bout. Pour les autres chaînes de restaurants, ça se faisait un peu au doigt mouillé. Enfin, c'était le manager qui disait ah, je sens bien
sur un malentendu.
Il va faire beau, je sens bien tant de clients. Allez, je passe mes commandes pour tant de choses. C'était pas quelque chose qui était vraiment mesuré. Et du coup, on s'est dit, on va lui dire exactement combien de clients vont venir, ce qu'ils vont commander et ce dont il a besoin. Et comme ça, on pourra commander vraiment ce qu'il a besoin et plus jeter, quoi.
Trop bien. Donc, outil hyper important, du coup. Ça a été qui tes premiers clients?
Mes premiers clients, ça a été Accor.
Je sais que Accor a pris des parts dans la société.
Ouais, c'est ouais. Ça, ils sont actionnaires. Ouais. Mais en fait, en gros, toute cette partie un peu entrepreneuriale où ils ont fait un premier investissement, du coup, c'est devenu nos premiers actionnaires.
Une belle marque de confiance aussi.
Ouais, une super belle marque de confiance. Et derrière, parce que c'est beaucoup plus facile d'aller chercher d'autres clients. Mais du coup, nos tout premiers clients, ça a été les restos et les hôtels du groupe Accor. Mais avant ça, le tout premier client, ça a été le kebab,
ouais.
le kebab à côté
Trop
de chez
bien.
Moi. Lisa Diamé, qui est la première à nous avoir fait confiance. Et après, c'est grâce à elle que derrière, on a pu faire une version qu'on a montrée à Accor. Puis après, derrière, de Accor, on est parti convaincre tous les autres. Mais c'est pour ça que, pour moi, je trouve que c'est un bel exemple de se dire, en fait, même pour les personnes qui disent qu'ils n'ont aucun réseau, nous, on a grandi, on n'avait aucun réseau. Et en fait, on a tous un réseau. C'est juste qu'il est différent. Il faut y aller étape par étape. Nous, on ne connaissait pas de grandes marques, de grandes chaînes de restaurants, etc. On a dit, celui qu'on connaît bien, c'est le kebab du coin. On va aller avoir. Et elle, après, elle nous a mis en relation avec son fournisseur. Pareil, le fournisseur, en fait, c'est le même fournisseur que telle autre marque, qui est un peu plus grande. Et du coup, de fil en aiguille, t'arrives à aller chercher un peu plus de monde. Et au final, tu travailles avec Accor, avec des grandes marques. Mais tu commences petit et puis...
Je suis complètement aligné avec ça. C'est step by step. Et commence avec ce que t'as. Et puis après, derrière, potentiellement, ça pourra t'amener là où tu n'aurais pas pensé aller.
Exactement.
Donc aujourd'hui, Fullsoon, vous touchez toutes les typologies de restaurants, d'hôtels. C'est-à-dire que n'importe quel restaurant, n'importe quel hôtel peut vous contacter ou
ouais.
Potentiellement.
Alors dans la fête, oui, l'outil il est adapté pour tout le monde et il peut être très bien utilisé pour tout le monde. Maintenant sur les prochains mois. Notre focus c'est plus sur les grandes chaînes et les
plus
franchises.
Le flux est important,
c'est ça exactement,
c'est
pour avoir un grand flux et pouvoir faire rentrer plusieurs restaurants d'un coup dans l'outil. Donc en tout cas, dans une démarche commerciale aujourd'hui, on va plus s'adresser aux grands groupes, mais l'outil à terme peut être utilisé par tout le monde.
Ok. Aujourd'hui, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres? Alors, pas financiers, parce qu'on n'en parle pas dans le podcast, mais en termes de nombre de clients, tu vois, est-ce que tu as des chiffres potentiellement à donner sur Fullsoon?
Ouais, bien sûr. Là, on a commencé la commercialisation de l'outil en janvier. Et là, depuis le mois de janvier, on a signé un peu moins d'une trentaine de marques. Donc ça va de la franchise avec 4-5 établissements à de la franchise avec plus de 800 établissements, sans compter le groupe Accor où il y a 10 000 restaurants. Donc on a un énorme parc à déployer. Maintenant, le challenge de cette année, ça va être l'opérationnel et l'exécution. Comment arriver avec les ressources qu'on a à déployer chez ces milliers de clients de manière coordonnée. Ensuite, on est hyper content parce que pendant la dernière Coupe du Monde, ça a été une grosse phase de test avec nous aussi pour tous les restaurants de fast-food pour voir comment nos modèles réagissaient à ces avec ces établissements-là. Et on est hyper content parce que sur tout ce qui était fast-food, on a réussi à dépasser les 90% de précision sur le nombre de clients qui venaient, les plats qui étaient commandés. Et ça se convertissait en une réduction d'un tiers du gaspillage alimentaire dans les restaurants. Donc, ouais, franchement, hyper, hyper content du résultat et de la tournure que ça prend.
Ouais, trop cool. Franchement, vous pouvez être fiers déjà de tout ce qui a été accompli, tu vois, en peu de temps, finalement.
Ouais.
C'est quoi les next steps, les objectifs futurs?
Les objectifs futurs, ben là, déjà, c'est de recruter pour pouvoir déployer dans tous les restaurants qu'on a signés. Là, le problème, c'est pas tant d'aller chercher des nouveaux restaurants à faire signer, mais c'est vraiment de déployer. C'est un gros challenge. Donc, on est vraiment là-dessus. Et puis après, s'attaquer à d'autres secteurs d'activité aussi. La restauration collective, tout ce qui était cantine, etc. Enfin, toute la restauration indépendante. Donc, c'est un vrai challenge. Mais au-delà de ça, moi, j'ai aussi envie de partager un peu l'aventure qu'on est en train de vivre. Parce que, avec du recul, on me dit, c'est incroyable ce qui est en train de nous arriver. Rien que déjà d'être dans Forbes, pour nous, c'était un truc de fou. Là, même ma sœur qui est...
Ouais, exactement. J'allais préciser. Family Forbes ou pas?
Écoute, on est en train de prendre le contrôle.
C'est quoi la prochaine étape? Non, effectivement, pour préciser, donc toi, t'as été sorti quand c'est sorti début avril. Et ta sœur Tayeba, qui est dans les 40 femmes Forbes, et on a appris ça la semaine dernière où on tourne l'épisode. Donc, incroyable. Déjà, bravo, tu vois.
Merci.
Effectivement, vous pouvez... Enfin, c'est cool.
Non, franchement, c'est incroyable, mais moi j'ai vraiment envie d'utiliser ça. Tu sais, tout à l'heure je te disais, moi j'ai dans mon environnement, j'avais eu aucun exemple de personne qui s'était lancée. Je trouve que c'est un peu tôt pour dire qu'on a réussi, mais qui avait essayé, qui était passé par, qui avait intégré en tout cas un écosystème qui était différent. Et du coup là, j'ai vraiment envie de prendre du temps pour partager cette expérience là. Et pour justement donner un exemple, dire que c'est possible, c'est pas parce que on vient d'un environnement qui est compliqué, où il n'y a aucun écosystème, on n'a aucun réseau, qu'on a des parents qui n'ont pas du tout grandi dans le milieu où ça parle d'argent, de levée de fonds, etc. Ben qu'en fait tout est possible, qu'on peut réussir. Il y a juste certaines choses qu'il faut apprendre, certaines choses, certains process à respecter. Et si on le fait, ben on peut réussir. Du coup, là, c'est vraiment un de mes objectifs en parallèle du développement de
ton aventure entrepreneuriale pour pouvoir justement inspirer aussi des gens. Bah, le podcast était très bien pour ça.
Mais justement, moi, j'étais hyper, hyper content quand tu m'as appelé. Déjà, parce que pour moi, avant qu'on se rencontre via les événements de Forbes, c'est l'entrepreneur, je voyais que des entrepreneurs de fous furieux passer à l'intérieur. À chaque fois, je l'écoutais, je me disais, mais c'est incroyable ce parcours-là, faut que je me lance. Et du coup, aujourd'hui, d'être là et de pouvoir partager mon expérience, c'est vraiment une chance de fou. Donc, merci beaucoup.
Et écoute, on va pouvoir passer à la partie bilan de ton aventure, même si effectivement c'est assez récent, on va dire. J'ai deux questions. La première, c'est quel a été le moment le plus difficile de ton aventure pour le moment?
Le moment le plus difficile, je pense qu'il y en a eu deux. Le premier, c'est vraiment quand tout le monde a quitté son taf, que Misbah a vendu son étude et qu'on s'est lancé. Ça a été le premier moment parce que du coup tout le monde déjà on avait la pression et je sens plus la pression sur mes épaules de me dire il faut qu'on réussisse, mais aussi parce qu'en fait c'était un passage où on passait du modèle de frère et sœur. En plus, je suis le dernier de la fratrie, donc j'étais un peu, tu sais, celui à qui
le petit frère.
Le petit frère, on m'a dit fais ça, du coup, je fais ça à un modèle d'associé, où du coup, je suis CEO, je vais un peu apporter une vision et un plan, je vais leur donner un plan. Et du coup, ça a été un peu compliqué au début, que le temps que chacun trouve ses marques. Mais pareil, encore une fois, hyper chanceux d'avoir une Misbah, parce que elle a vu passer dans sa vie de notaire des familles qui sont déchirées pendant des successions, pendant des ventes, etc. Du coup, on a fait un pacte d'associés béton où tout était par écrit. Ça, c'est un vrai conseil que je peux donner aux gens qui se lancent, surtout en famille, mettez tout par écrit, un bon pacte d'actionnaires. Et même dans nos personnalités, trouver un équilibre sur la manière de communiquer. Donc ça, c'était un peu une période qui était un peu compliquée. Et puis après, quand je me suis marié aussi, parce que bon, ça, je pense que ce serait une histoire pour un autre,
ça peut arriver après. Ça peut arriver après.
parce que pareil, énormément de changements. Ma femme est américaine. Du coup, elle a quitté son job pour venir s'installer ici. Moi, au même moment, j'ai quitté mon job pour lancer Fullsoon. On s'est retrouvé sans forcément de revenus. Je me disais, mais en fait, je suis en fou, quoi. Je fais quitter sa famille, sa situation, tout ça, pour venir ici. Moi, je sais, je suis en train de quitter mon taf. On n'a aucun revenu stable et on est en train de se lancer. Donc, j'avais ma vie de jeune marié à construire. Et Fullsoon à construire. Du coup, au début, j'avais énormément de mal à trouver un équilibre parce que, enfin, il faut que je trouve du temps à consacrer aux deux. Et du coup, c'était un peu compliqué. Mais là, ça va. J'ai réussi à trouver un peu mon équilibre. Et donc, ça va de mieux en mieux.
Trop bien. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler dans la partie d'après. Je ne vais pas faire de spoil, mais il y aura une question qui pourra être intéressante. La deuxième question et la dernière pour cette partie bilan, c'est quel a été le moment le plus marquant positivement de ces dernières années pour toi?
Le moment le plus marquant positivement de ces dernières années. Bon, je vais être un peu hyper égoïste parce que la bonne réponse, ça devrait être quand on a fait un énorme accomplissement avec Fullsoon ou quoi que ce soit. Mais pour moi, ça a vraiment été quand j'ai été dans le classement 30 Under 30. Parce que pour la petite histoire, moi, c'était mon objectif depuis que j'avais 12 ans.
Ok.
D'être dans ce classement-là.
Trop drôle.
En fait, j'étais passé devant un kiosque. C'était aux États-Unis, parce que du coup, j'ai une autre sœur qui habite aux États-Unis. J'étais parti lui rendre visite et j'avais vu une couverture avec un trader à l'époque qui avait fait la couverture de 30 Under 30. Et du coup, je demande à ma sœur, c'est qui ce mec-là? C'est quoi 30 Under 30? Et du coup, elle m'explique, elle me dit, ouais, c'est un classement de Forbes, c'est 30 plus grandes personnes, enfin, 30 plus grands talents de moins de 30 ans. Je me dis, mais attends, c'est un truc de fou, etc. Il faut que je sois dedans. Et du coup, depuis tout petit, je me disais, dans un coin de ma tête, il faut que tu sois dans ce classement-là. Mais tout le monde se foutait de ma gueule. Tout le monde se foutait de ma gueule en me disant, ça sert à rien de rêver, en fait. Tu seras jamais. Et même l'année dernière, j'avais candidaté. Et en fait, tu sais, je sais pas pour toi comment s'est passé l'annonce que t'étais dans 30 Under 30, mais en fait, personne te prévient.
Non.
Personne te dit t'es dans le classement. Et du coup, je me dis, attends, c'est chelou, personne nous appelle ou quoi que ce soit. Et du coup, l'année dernière, quand même, j'avais acheté le magazine pour me dire, peut-être il y a moyen, tu vois.
Sur un malentendu.
Sur un malentendu, ça peut passer. Et j'ai demandé à ma sœur Taïba de m'acheter le magazine. Et du coup, mais je lui avais pas dit, ouais, j'espère que je suis dedans. J'avais dit à personne que j'avais candidaté, tout ça. Et quand elle me voit regarder le magazine et aller dans le classement et être dégoûtée, elle me dit, mais pourquoi t'es dégoûtée? Je lui dis, je suis pas dedans. Elle me dit, si j'avais su que tu pensais être dans le classement, je te n'aurais même pas acheté le magazine. Et du coup, là, le fait d'être dedans, c'est tellement une victoire pour moi, déjà, de me dire, bah, en fait, c'est possible. C'est possible. Vous fixez un objectif et il n'y a rien de trop grand. Et du coup, enfin, pour moi, c'était incroyable. C'était un accomplissement. Depuis que je suis 12 ans, j'achetais, à l'époque, il n'était pas disponible en France. Du coup, je regardais sur Internet, je voyais LeBron James, Rihanna, etc., qui étaient dans le classement. Et là, de me dire, mais en fait, je suis dans le même classement. C'était un accomplissement incroyable. Mais vraiment, pour moi, c'était un des plus beaux moments là, que j'ai passé dans mon aventure entrepreneuriale.
Trop bien. Ouais, ça m'étonne pas. Moi, quand je l'ai appris, je l'ai appris via une notif LinkedIn. Ouais. On a été tagué sur le post. Et donc, il était genre 8h30, 8h40. Et j'étais au salon Go Entrepreneur à La Défense. Enfin, je rentrais dans La Défense Arena. Et je reçois en même temps la notif. Et là, je fais, vas-y. J'ouvre LinkedIn et tout.
Je vois tellement.
Et tu frises, tu dis non, mais. Non, ils ont listé tous les candidats. Après, tu vois, il y a 30 personnes, tu fais. Ah, okay.
Ouais, incroyable.
Genre, c'est un moment. Et effectivement, ouais, c'est un moment.
Mais du coup, toi, ça a été quoi ta première réaction quand t'as vu.
La première de chez Première, j'ai pas réalisé en vrai. Au départ, j'y croyais pas. Et après, quand j'ai réalisé, je pense que j'ai réalisé 48 heures après, je pense.
C'est qui la première personne que tu as appelé pour lui
annoncer? J'ai appelé direct mon père.
Ton père?
Ouais. J'ai appelé direct mon père. Genre, en plus, je devais voir une conf. Genre, j'avais pris la première place devant la conf de l'ENA Situation,
ouais,
qui donnait une conf dès 9h à Go Entrepreneur. J'avais la meilleure place. Personne encore était arrivé. Je me suis dit, vas-y, je m'en fous. Il faut que j'appelle quelqu'un, là, tu vois. T'es obligé d'extérioriser. Et du coup, j'ai appelé mon père et je lui ai dit et il était content, tu vois.
C'est incroyable. Et du coup, ton père, il a réalisé?
Pas vraiment au départ. Pas vraiment. Il a pas... C'était OK, c'est cool, mais c'est quoi?
Tu vois? Je vois exactement.
Et après, pareil, il a processé l'info. Et ouais, quelques jours plus tard, il m'a dit, OK, je suis fier de toi, bravo, etc. Tu vois. Donc, ouais, pour le coup, je suis aligné avec ce que tu as dit. Donc, c'est cool. On va passer à l'avant-dernière partie du podcast sur les rencontres, le mindset et la vie perso. Est-ce que tu peux me parler d'une rencontre en particulier qui a marqué ton aventure?
Mon aventure entrepreneuriale.
Entrepreneuriale, ouais.
Mon aventure entrepreneuriale. Bah, ça, pour moi, l'aventure qui a changé vraiment mon aventure entrepreneuriale, c'est Damien Perrault, responsable de l'innovation chez Accor. Parce que ça a été un soutien, mais infaillible. Ça a été un mentor. Il m'a un peu intégré dans, il m'a donné des codes que je maîtrisais pas forcément. Et en plus, surtout à ce moment-là, j'avais essayé de pousser le projet Full Soon à plein d'endroits différents chez Accor. Et on m'avait fermé des énormes portes. Et même j'avais commencé à travailler avec des restaurants. Il y a des gens qui avaient appelé les restaurants pour leur dire ne travaillez pas avec Hassan, etc. Des gens d'Accor qui avaient appelé les restos. Et Damien, il a toujours été présent. Toujours pour faire un peu le bouclier avec toutes ces personnes-là, pour me pousser, pour me donner de l'ambition. Et je lui en serai vraiment éternellement reconnaissant.
Je pense qu'il y a un truc qu'il faut imprimer dans la tête des gens, c'est que quand tu es salarié, tu n'appartiens pas à vie à l'entreprise. Tu vois.
Exactement.
Et je pense que c'est ultra important de dire que ce soit des dirigeants d'entreprise ou même des collaborateurs, quand quelqu'un veut lancer son projet... Il faut le soutenir, il faut vraiment le soutenir à 200% et pas tout faire pour qu'il reste, parce que c'est hyper important et je pense que la personne elle sera marquée positivement à vie, tu vois, de ce que ce que tu me dis clairement, je pense à vie tu lui en seras reconnaissant.
Ouais.
Et c'est vrai que dans beaucoup d'entreprises, que ce soit des dirigeants, des managers ou même des collaborateurs, ça se passe très mal parfois un départ pour ouais. entreprendre. Et c'est pas normal, tu vois.
Et surtout, enfin, la proposition et le deal qu'il m'a fait en mode, vas-y, entreprends, je te donne l'argent, tu prends deux mecs à qui on bosse avec toi, t'as 6 mois, je recrute quelqu'un pour te remplacer dans ton équipe en attendant, comme ça, ta place, elle est au chaud. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tu retournes dans ton équipe. Et ça, c'est incroyable l'opportunité qu'il m'a donné. Et pareil, il m'a introduit juste après à des contacts. Enfin, je me dis, en fait, j'aurais pu être un énorme cassos, ruiner sa réputation. Et en fait, non, il m'a ouvert son carnet d'adresses hyper rapidement. Donc,
trop bien.
J'en suis hyper reconnaissant.
Ma deuxième question pour cette partie, c'est qu'est-ce qui est le plus important selon toi dans l'entrepreneuriat?
Dans l'entrepreneuriat, alors
vraiment la chose que tu mets,
la chose que je mets
en numéro.
En fait, ça c'est hyper particulier parce que moi je me suis toujours dit, mais comment font les gens qui ne sont pas croyants pour entreprendre?
Waouh, on peut débattre.
Non mais parce que je me dis en fait. On passe tellement par des phases de fou. Quand tu lances un projet, tu te mets à 100% dedans, t'entreprends. Que moi, je m'en remets toujours, enfin, à Dieu. Je me dis, de toute façon, tout est entre les mains de Dieu. Je fais mon maximum. Et puis après, il va se passer ce qui va se passer. Mais j'ai toujours ce backup. Je me dis, dans tous les cas, il y a Dieu qui est avec moi, tu vois. Je me dis, mais les gens qui ne sont pas croyants, qui se lancent en se disant, mais en fait, ça peut ne pas marcher et il y a personne pour me backup. Je suis admiratif. Vraiment, je suis admiratif. Et je pense que pour bien entreprendre, il faut avoir une part d'inconscience.
Ouais, je pense que c'est important.
Ouais.
Moi, je suis issu d'une famille catholique, mais je suis athée. Tu vois.
Okay.
Donc, je fais partie des gens.
je suis admiratif, du coup.
Ok, hyper intéressant.
Ça m'intéresse. Toi. Comment est-ce que tu fais dans ces moments-là où tu traverses des périodes hyper difficiles de te dire, mais en fait, je vais m'en sortir. Peut-être que tu n'as pas traversé encore de période.
Si, je pense que ça va être les gens qui m'entourent. Tu vois,
ouais.
Ma copine, mes amis, je pense que je vais plutôt me tourner vers eux qu'une croyance, tu vois, je pense. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai fait
okay, c'est quand ça allait moins bien. Tu vas puiser la force de te dire...
Ouais, c'est ça.
De te dire, je vais réussir. Ok. Et du coup, t'accordes cette légitimité-là à tes amis, ta copine, etc.
Ouais.
Est-ce que tu ne pourrais pas te dire, mais en fait, tu sais, c'est des fois, il y a des gens qui te donnent des conseils. Et en fait, t'es content de recevoir ces conseils-là. Mais tu te dis, mais en fait, ils comprennent pas ce par quoi je passe.
Ouais.
Tu vois, pour moi, s'il y a quelqu'un qui a pas entrepris, il peut pas comprendre les...
Mais du coup, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un entourage aussi d'entrepreneurs.
Ok.
Et du coup, bah, quand j'ai des problématiques sur certains sujets, potentiellement, je vais aller les voir eux. Et pas potentiellement des amis qui n'ont pas entrepris, okay. Tu vois. Donc, ça va être ça, mon process, entre guillemets.
Okay, non, et c'est intéressant.
Après, tout n'est pas ancré dans le marbre. Hein. Je ne dis pas que dans 5 ans, je suis très ouvert d'esprit. Et tu vois, enfin, rien n'est figé. On verra au fil du temps. Je suis encore jeune, donc je ne suis pas bloqué par rapport à ça, quoi. Il me reste une petite question pour cette partie avant de passer à la dernière partie finale. Comment est-ce que tu relis le pro et le perso?
Ça, c'est une vraie question. Parce qu'en fait, tout est lié, mais à un milliard de pourcents. Enfin, pour moi, c'est impossible de le dissocier. On parle business au travail, on parle business à la maison. C'est vrai que ça, c'est un peu compliqué pour être 100% honnête, puisque en fait des fois t'as du mal à décrocher, des fois t'as un truc dans la tête, des fois peut-être tu as commencé à avoir une discussion un peu chaude avec mes sœurs, et en fait après on rentre, tu sais, le week-end t'as un dîner de famille et en fait tu fais comme si de rien n'était.
Mais au fond de
ta tête, faut qu'on fasse ça. Et je sais que ça a été compliqué, même pour mes autres frères et sœurs, et même pour ma femme, quand on se retrouve à un dîner. Mais dans la majeure 80% des cas, on va dériver vers un truc du taf.
Ouais.
Et du coup, enfin ça peut être hyper relou, tu sais, ça va fermer un peu la conversation pour les autres. Et les autres vont commencer à se sentir un peu exclus. Du coup, ça, je t'avoue, c'est un truc hyper compliqué. Il faut qu'on bosse dessus pour vraiment réussir à dissocier ça.
Mm.
Mais quand t'entreprends en famille, en fait, faut être réaliste. À part si t'es hyper bon pour faire la part des choses et construire un mur émotionnel dans ta tête. Tu me dis, ta vie perso, ça devient ta vie pro, et ta vie pro, ça devient ta vie perso, quoi.
Ouais, c'est ça. Ça ne fait qu'un, finalement.
Exactement.
On va pouvoir passer à la dernière partie du podcast, avec des petites questions rapides. À chaque fois, tu as évidemment le temps d'y répondre. La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux?
Qu'est-ce que je fais pour aller mieux? Déjà, je passe du temps en famille. Pour moi, c'est hyper hyper important. Justement, ça pour moi, ça a été aussi incroyable, une chance incroyable de me marier au moment où j'étais en train de lancer Fullsoon, parce que, enfin, ma femme, c'est un pilier incroyable pour moi. Passer du temps avec elle, c'est vraiment ouf. Et après, passer du temps avec mes parents aussi. Et là, au contraire, c'est pas pour couper, mais quand je sens qu'il y a quelque chose qui va pas hyper bien ou quelque chose qui me pèse un peu au travail, souvent je vais en parler avec mon père. Parce que mon père aussi, ça a été un entrepreneur, il a mis de vie d'entrepreneur. Et avoir son retour d'expérience à lui et avoir son parcours de vie qui est juste fou, j'en tire énormément de force. Et ça me permet de me ressourcer. Donc c'est pas forcément une manière de couper, mais c'est une manière de me ressourcer, quoi. Donc ouais, passer du temps en famille, pour moi hyper 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 important.
Ouais.
Et au-delà de ça, j'en reviens encore dessus. Moi, faire mes 5 prières par jour. En fait, j'en ai vraiment besoin, parce que c'est une coupure. C'est une coupure, tu sais, ça te prend 5 minutes dans la journée. Moi, je me pose. Moi, c'est hyper important et ça me permet de me libérer l'esprit, de lâcher tous mes problèmes et d'avoir un rythme aussi.
Ouais.
D'avoir un rythme. Du coup, je pense que c'est vraiment ça, la famille et la religion.
Ok. C'est très clair. C'est quoi ton plus grand rêve?
Mon plus grand rêve? Alors moi j'en ai plusieurs.
Third Tier and Third Tier c'est fait.
Non, moi j'ai deux rêves et il y en a un que j'ai défini il y a vraiment pas longtemps. Mais le premier, c'est une fois que j'ai fini Fullsoon entre guillemets, d'ouvrir un petit coffee shop tranquille. Sans avoir de pression de rentabilité ou de pression financière, de me dire il faut que j'ai de quoi vivre, mais juste pour le kiff, en fait, de faire à manger, de servir les gens. Et parce que souvent tu viens prendre un café, tu viens prendre une part de gâteau, un truc, t'es content, en fait, tu passes un bon moment. Et du coup, j'ai envie maintenant de passer ces bons moments et partager des histoires de vie avec tous ces gens là Mais mon autre objectif maintenant, c'est d'ouvrir un fonds d'investissement pour les gens qui ont des parcours de vie fracassés. Parce que ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai lancé Fullsoon et que je cherchais justement des fonds. Je partais voir les fonds d'investissement qui disent early stage, pre-seed. Donc en gros, c'est un moment où t'as pas de produit, t'as pas de CA, limite t'as juste un PowerPoint, mais t'as besoin de ressources. Et en fait, à chaque fois, on me disait non, t'as pas assez de traction, t'as pas de CA. Je me disais, mais comment tu peux avoir du CA quand t'es en pre-seed, early stage? Et après, au fur et à mesure, j'ai rencontré des gens, des entrepreneurs qui ont réussi à lever avec ces fonds-là. Et je leur dis, mais comment t'as réussi, à quel moment t'as levé? Ils me disent, moi je suis parti lever, j'avais juste un PowerPoint. Je dis, mais comment t'as fait? Il me dit, mais en fait, j'étais en cours avec lui, nos parents sont potes, on se connaît hyper bien, et du coup, et je me suis rendu compte que c'était incroyable l'entre-soi qu'il y avait dans ce milieu-là. Et si tu connaissais pas quelqu'un, c'était mission impossible pour aller lever des fonds au début. Et là, j'ai envie de créer un fonds qui va investir sur des parcours de vie fracassés. Au-delà de parcours de vie fracassés, mais en tout cas des gens qui ont aucun réseau, aucune connexion, et investir sur l'homme ou la femme plutôt que le projet.
C'est de très beaux rêves. J'espère que ça pourra se conclure. C'est quoi ta plus grande peur?
Ma plus grande peur, c'est l'échec de Fullsoon. Pas forcément pour moi, mais déjà pour mes deux sœurs, parce qu'elles sont embarquées là-dedans pour moi. Et comme j'ai commencé à pas mal documenter mon parcours, essayer d'inspirer un peu autour de moi les gens à se lancer, j'ai peur que si je rate, Mais en fait, tous ces gens-là, ils disent, en fait, c'était pas possible. C'était une belle histoire, mais au final, non, on peut pas réussir, quoi.
Est-ce que t'as un livre à me conseiller?
Un livre à te conseiller? Mon livre préféré, c'est Les cerfs-volants de Kaboul. Ça a rien à voir avec l'entrepreneuriat.
Ça me va très bien.
Ça a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Mais c'est Les cerfs-volants de Kaboul, c'est sur l'évolution de l'Afghanistan avant l'arrivée des avant même la guerre, l'invasion communiste et l'arrivée des talibans. Comment c'était et même l'évolution un peu de cette région-là. Et du coup, ça te donne énormément d'infos. Moi, je l'ai lu parce que je viens du Pakistan, du coup la région Afghanistan, Pakistan, Iran, etc. C'est des cultures qui sont hyper proches, donc ça me permettait d'en apprendre aussi sur moi-même. Et ça te met dans la peau d'un réfugié, de quelqu'un qui avait sa vie, qui a eu un parcours de vie hyper difficile, qui du jour au lendemain doit tout quitter, doit tout reconstruire, des drames familiaux, et ça te permet de te mettre beaucoup plus à la place des gens que tu vas voir dans la rue. Et tu te dis, en fait, peut-être que ce mec-là, c'était un médecin, il avait sa vie là où il était, et là, il en est réduit à tout recommencer dans la rue. Donc vraiment, Les cerfs-volants de Kaboul, de Khaled Hosseini, un bijou ce livre.
Ok, je me note la recommandation et puis de toute façon, on la mettra en description. Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller?
Un film. Mais moi, le film duquel je tire l'inspiration d'entrepreneuriat, c'est Batman Dark Knight Rises. Non, en fait, c'est une scène de ce film-là qui, okay, pour moi, résume l'esprit d'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, je sais pas si tu vois... Il y a une scène où il est dans une prison. C'est un puits. Je sais pas si tu visualises la scène ou pas du tout.
Pas du tout.
En fait, du coup, t'as Batman, Christian Bale, qui est arrêté par le méchant, qui est envoyé dans une prison. La prison, c'est un énorme puits. Un trou creusé dans le sol. Et en fait, du coup, il essaie de s'évader. Et le seul moyen de s'évader, c'est de, grimper à les parois du puits. C'est une énorme prison, hein. Il y a plein de prisonniers. Et en fait, il y a un moment où il doit sauter. Et l'espace est hyper long entre les deux pierres entre lesquelles il doit sauter. Et à chaque fois, du coup, tous les prisonniers ont essayé. Lui, du coup, il essaye. Il s'attache une corde. Il y a un prisonnier qui tient la corde. Lui, grimpe. Saute, et à chaque fois, il se mange la paroi, il tombe dans les vapes. Et il y a l'ancien de la prison qui lui dit qu'il y a une petite fille à l'époque qui était née dans la prison, sa mère était emprisonnée, et qui avait réussi à grimper. Et il lui dit, mais comment est-ce qu'elle a réussi à grimper? Et il lui dit, elle a réussi à grimper parce qu'elle avait pas peur. Et là, Batman lui dit, mais moi aussi, j'ai pas peur. Le mec disait elle a pas peur de ce qui va se passer, mais elle a la peur de mourir. Pourquoi? Parce qu'elle avait pas la petite corde. Et du coup, le fait de ne pas avoir cette corde là, ça lui a permis de faire un saut inhumain, d'avoir ce centimètre en plus, de choper la pierre et de réussir. Et du coup, il dit OK, et il retente sans la corde. Et du coup, pareil, cette peur de mourir, elle lui permet de faire le saut et il arrive à attraper. Et pour moi, en fait, c'est exactement ça l'entrepreneuriat. Ceux qui vont réussir, c'est ceux qui vont sauter sans filet. Ouais. En fait, quand tu sautes sans filet, t'as pas le choix que de réussir. Et pour moi, c'est la scène qui m'a marqué, qui me dit, en fait, l'entrepreneur, c'est ça, c'est quelqu'un qui a sauté sans filet. En fait, ça va te donner des ailes et te permettre de réussir ce qui est impossible.
Ok, hyper intéressant. C'est Batman qui t'a donné envie de te lancer.
Exactement, Batman.
Trop drôle. J'ai rajouté une petite question pour cette nouvelle saison, ouais, qui s'appelle la question reverse. Alors, même si tu en as abusé pendant ce podcast, c'est-à-dire que tu prends la fonction de host sur une question, et la question, c'est: y a-t-il une question que tu souhaiterais me poser?
Ouais.
Dis-moi.
C'est quoi l'interview qui t'a le plus marqué?
Oh, question difficile. Je pense que... J'espère ne pas blesser des gens. Parce qu'en vrai, il y en a plein, et globalement, tu vois, sur les 115, il y en a bien une cinquantaine qui m'ont marqué. Mais une en particulier qui a marqué l'histoire de Serial Entrepreneur et même mon histoire personnelle, c'est le fait d'avoir reçu Anthony Bourbon en 2020, avant, bien avant qu'il soit connu, bien avant qu'il ait des réseaux sociaux, bien avant qu'il soit sur M6, où en fait, on l'a rencontré à un moment donné où il n'y avait rien de tout ce qu'il a créé aujourd'hui, à part les débuts de feed, entre guillemets. Et du coup, on a ultra kiffé cette rencontre. Je dis « on » parce que j'étais avec Mehdi, qui est mon associé. Et en fait, cette rencontre, elle a créé plein de trucs qui ont été très impactants pour la suite de Serial. Et en fait, on a fait un acte 2 avec Anthony Bourbon il y a quelques semaines, en mai dernier, 3 ans après, pour voir un peu l'évolution, tu vois, de son parcours. Et c'est un podcast qui m'a marqué, ouais. Voilà.
L'acte 1 ou l'acte 2, ou les deux?
Ah, l'acte 1 en premier, l'acte 2 aussi. Mais l'acte 1, il y avait quelque chose de particulier parce que je rencontrais quelqu'un que je ne connaissais pas, que pas grand monde connaissait finalement. Et du coup, ça a été intéressant de voir son évolution après ce premier épisode.
Ok.
Voilà.
Donc, en plus, Anthony Bourbon, c'était celui qui faisait la couve.
Exactement. Exactement.
Du Sterling d'Arthur.
C'est ça. Et qu'on verra dans les prochains mois, notamment la cérémonie en octobre. Il me reste deux petites questions. Est-ce que tu as une ou un entrepreneur à me conseiller pour de futurs épisodes?
L'entrepreneuse pour moi qui est incroyable, un énorme modèle, c'est Inès Leonarduzzi. Elle a pareil un parcours de vie de fou. Elle a créé l'ONG Digital for the Planet. Elle parle hyper bien. Tu la rencontres pour la première fois, t'as l'impression que vous vous connaissez depuis 10 ans. Et la générosité, capacité à t'ouvrir son réseau, de partager son histoire, elle est tellement vraie. Moi, c'est une rencontre qui m'a marqué. Donc, ouais, Inès Leonarduzzi, si tu peux l'avoir sur ton podcast, t'as un podcast.
Tu me la pitches très bien. Donc,
incroyable.
je me renseignerai après le podcast. Je note la reco. Et ma dernière question que je pose sur chacun de mes épisodes depuis un certain moment, c'est quoi pour toi un entrepreneur?
Pour moi, un entrepreneur, c'est... Je reviens là-dessus, c'est quelqu'un d'inconscient. C'est quelqu'un d'inconscient qui se dit que c'est il y a pas la... c'est pas possible de pas réussir en fait.
Okay.
C'est pas possible de pas réussir. Donc il se lance et il voit des solutions là où il y a des problèmes. Mais pour moi, un très bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une capacité à bien s'entourer. Parce que pour moi, tous les projets qui réussissent, c'est des projets où il y a une équipe qui est complémentaire et où tout le monde parle bien. Donc, si tu arrives à choper des gens qui savent faire des choses que toi, tu ne sais pas faire, pour moi, c'est le meilleur moyen de créer une bonne équipe.
Ça me va très bien comme définition. Je suis très aligné avec ça. Merci beaucoup, Hassan, pour cet échange.
Merci à toi.
Que ça t'a plu.
C'était incroyable. C'est un super moment. J'ai pas vu le temps passer.
C'était trop cool. J'espère que toi aussi, qui nous a regardé et écouté, ça t'a plu aussi. Moi, en tout cas, j'ai vraiment kiffé cet épisode. Très honoré d'être ton premier podcast. Je suis convaincu qu'il y en aura plein d'autres, mais on sera les premiers. Et du coup, je te souhaite un maximum de bonheur, un maximum de réussite aussi dans ton aventure avec tes sœurs. Et on suivra évidemment tout ça attentivement. On mettra tous les liens en description. Et à très vite.
Avec plaisir. Merci pour l'invitation. C'était un honneur et un plaisir.
Salut.
Salut.
Merci d'avoir regardé et écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Encore un grand merci au Soli Hotel de nous avoir accueillis pour cette série d'épisodes. Et on mettra évidemment tous les liens en description. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode.